La chronique de Pierre-Yves McSween, présentée par Ginsburg Gingras. Surmontez vos dettes. Contactez gratuitement un syndic autorisé en insolvabilité de Ginsburg Gingras. GinsburgGingras.com/dette.
Dans Bouchard en parle, voici Pierre-Yves McSween.
Pierre-Yves, bon matin.
Salut.
Tu vas parler de la SQDC qui va avec de nouveaux produits dérivés, mais pas tout. Entre autres, il n'y aura pas de jujube.
En fait, c'est que la SQDC, à partir d'aujourd'hui...
Oui.
Et la loi va permettre de commencer à proposer à Santé Canada des produits dérivés. Donc, les producteurs de cannabis vont pouvoir dire, on offre des choses.
Mais la SQDC... Des muffins aux potes, John, vas-tu avoir ça?
Pardon?
Des muffins aux potes, non?
Ben, là, ce qui est marqué dans le journal ce matin, c'est que il y aura des muffins aux potes s'ils sont au son, par exemple.
Ah,
mais
oui.
On a une ouverture. Mais si c'est un cupcake sucré, ça attire les enfants et les ados, et donc, ce sera refusé. Les jujubes, ça attire les enfants, donc non.
Okay.
Mais tu comprends? Donc, fait de la bouffe plate, on va l'accepter. Fait de la bouffe le fun, on va le refuser. Mais ce qui est intéressant, c'est... Parlons business, là. On est dans le commerce de détail, OK? On est dans une business où on va critiquer les résultats financiers de la SQDC, mais on se donne pas les moyens qu'il faut pour que les résultats soient bons. Tu comprends? Ben, dans le fond, la SQDC, là, contrairement au marché noir, qu'est-ce qu'elle fait pas? Offrir du service à domicile 24 heures sur 24 et surtout permettre des économies d'échelle majeures sur tous les produits. C'est-à-dire que si tu t'en vas dans le marché noir puis t'achètes de la drogue puis t'en achètes un kilo, tu vas l'avoir un meilleur prix si tu l'achètes au gramme. On s'entend là-dessus?
Oui.
J'imagine. Je laisse planer la question, OK? Sylvain?
Oui.
Donc, en somme, le marché noir fait ça. Et le marché, le marché réel, légal, qui a 30% du marché, lui dit... On est limité. Alors, dans le moment, les gens se font venir des jujubes par Internet.
Ben oui.
La SQDC ne contrôle pas la qualité du produit, ne contrôle pas ce qu'il y a dedans. Donc, est-ce qu'elle manque à sa mission en interdisant des produits locaux qui viendront de l'étranger de toute façon?
Mais ça, c'est toujours la difficulté, Pierre-Yves, de l'État qui se transforme en commerçant, mais avec plein de contraintes morales et autres. Là, dans ce cas-ci, ils veulent protéger les enfants, tout ça. T'es d'accord avec moi que c'est correct. Mais
oui.
Tu comprends que tu t'en vas en concurrence avec des gens qui ont pas les mêmes principes, la même morale. Fait que veux pas, tu perds du marché. Moi, je compare ça. Tu sais qu'au casino de Montréal, l'autre affaire, moi, je pense que l'État n'avait pas d'affaires dans la vente du pot, puis l'État n'a pas d'affaires dans les casinos. Mais bon, on a décidé que c'était l'État, le gouvernement. Mm-hmm. Fait que là, t'as un casino à Montréal qui veut faire de l'argent. T'es d'accord avec moi?
Ouais.
Pour faire de l'argent dans un casino, il faut que t'attires ce qu'on appelle les gros joueurs. C'est eux autres qui sont payants, là, OK? C'est eux autres qui jouent, là, ils peuvent l'échapper un soir, sont très payants. Pour attirer ces gens-là, faut que tu leur payes l'hôtel. Des fois même l'avion, puis une game du Canadien ou un billet à Formule 1. Tu me suis? Faut que t'es garde, parce qu'à Vegas, ils le font. Puis à Atlantic City, puis en Europe, partout. Or, l'Auto-Québec, c'est fait ramasser. Comment ça, vous gâtez les millionnaires américains alors que le Québécois qui va jouer, lui, injuste que vous donnez des billets, vous avez une loge, puis, et ils ont mis fin à leur programme de grands joueurs internationaux au calibre international. Ils ont renoncé à faire de l'argent. Ces gens-là sont rendus où? Ils sont soit à Kanawake, ou sont quelque part en Ontario, ou sont dans un autre casino, là. Parce qu'au Québec, moralement, l'Auto-Québec voulait pas donner des avantages aux gros joueurs par rapport aux petits joueurs.
Tu perds du marché. Ça apparaît dans les états financiers, tu sais.
Ben oui,
tes salons de jeu,
ben
de bord, de coin de rue, sont plus rentables que tes casinos. Pourquoi? Mais tes casinos, t'as des gens mieux payés. Évidemment, t'assumes les coûts d'opération, t'assumes le risque, t'assumes tous ces coûts-là. Tandis que le bar de coin de rue, lui, il paye des emplois au salaire minimum, puis c'est des joueurs de coin de rue qui y vont, mais le volume est plus gros, puis la marge est plus grosse, puis le risque est moins grand. Donc, on attire les mauvais joueurs, finalement. L'Auto-Québec, on va être honnête entre toi et moi, génère son cash d'une très grande proportion des gens qui n'ont pas les moyens de jouer.
Exactement, ça donne ça, parce qu'ils sont fait critiquer. Mais c'est pourquoi, moi, légaliser le jeu, c'est correct. Légaliser le pot, je suis d'accord. Mais pourquoi c'est l'État qui devient un casino? Le gouvernement du Québec est un vendeur de pot. Mais laissez ça au privé, puis taxer, puis imposer, vous allez faire plus de revenus encore. Touchez pas à ça. Par contre, mettez des contraintes. Alors, un casino, c'est le privé, telle chaîne d'hôtels qui s'en occupe, mais ils payent des redevances pour avoir la licence, etc. L'État ramasse l'argent, point final.
Oui, mais écoute, ils ont fait un choix autrement parce qu'ils ont dit, faut qu'on contrôle la moralité. Hein? Tu sais, c'est ça, la SAQ à l'origine. C'était un contrôle de moralité. T'as-tu connu ça? Toi, Sylvain, t'es-tu assez vieux pour avoir connu les bouteilles cachées en arrière du comptoir?
Hein? Où ça?
Je suis plus vieux que toi. On connaît ça. Oui, à l'époque, c'était pas la SAQ, là, c'était
la régie des alcools.
Alcools ou la commission des liqueurs, je me souviens plus du nom.
Ouais.
Maman elle dit encore ça. Pierre-Yves, je vois la commission des liqueurs, chaque fois ça me fait rire, je m'en rends tout le temps quand ça va dans un bar à Brossard. Puis là, t'arrivais puis tu commandais ton alcool, puis il y a quelqu'un qui arrivait derrière le comptoir puis t'apportait ton alcool. On pouvait bien pas connaître ça, on voyait pas les bouteilles. C'était comme à l'époque de la distribution consommateur. Tu regardais le catalogue, puis les bouteilles arrivaient, mais ils étaient cachés.
On était loin d'inspire. Fait que c'est dans ce temps-là que tu te ramassais avec du Harfang des Neiges.
Ouais, trouvais... non, Harfang des Neiges, c'est venu par après, ça.
Ou du Baby
Ça,
Doc.
C'est quand on a manqué de goût. Hey, dans les années 80, hein, moi, je me souviens, là, le Baby Doc, le Harfang des Neiges, puis l'espèce de vin italien dans une bouteille avec un panier d'osier alentour.
Ah oh, oui, c'était quoi ça?
C'était un genre de Chianti, je suis pas sûr, là.
Ouais, je pense.
Ben écoute, moi j'ai vu ça, là. Puis notre vin maison pour faire de la bouffe aussi, là.
Il y avait un peu, parce qu'on pendant qu'on parle, on m'envoie des. Le Grand Sec d'Orléans.
Ça le Grand Sec d'Orléans?
Ouais, ça là, c'est Marc Laurendeau qui faisait la pub de ça. Puis c'était un cid, puis c'était un peu comme Baby Doc, Harfang des Neiges, là, j'imagine.
Le Grand Sec d'Orléans?
Le Grand Sec d'Orléans. Il doit y avoir des auditeurs qui se souviennent de ça. Si
moi, je me souviens plus de l'annonce de Octalaire. Te souviens-tu de ça?
C'est quoi ça?
Il y avait une fille qui descendait, elle était habillée avec un chapeau haut de forme, puis elle disait « Octalaire, c'est divin ». T'as pas entendu « divin » du vin? C'était un jeu de mots bizarre, mais c'était ça passait en loupe tout le temps.
Mais c'est pas le mandat. C'est le mandat du gouvernement, c'est faire des routes, faire des ponts, transport en commun, c'est nous défendre, la police, s'occuper de la queue du jug, des égouts. Ça, c'est les gouvernements, c'est l'État.
En fait,
la
c'est
poste,
mettre
la
en
défense.
Commun des ressources qu'on s'opérait pas nous-mêmes.
C'est ça, les soins de santé, l'éducation. Mais pourquoi l'État est un commerçant d'alcool, de potes, puis de
casino? C'est la moralité ou c'est l'argent qu'ils attirent? La SOQ, je pense, c'est l'argent. Honnêtement, c'est plus la moralité, la SOQ, c'est de dire c'est l'argent. Maintenant, on va jaser, si tu veux, aller rentrer là-dedans, la SAQ, techniquement, on pourrait bien, très bien prendre une taxe, puis timbrer toutes les bouteilles, faire des contrôles, puis laisser tout ça au privé pour avoir des marchands de vin, puis avoir des micro-boutiques, puis tout ça, t'as raison.
Moi, c'est ça que je ferais, mais on s'en ira pas là-dedans.
La SAQ s'est dit, je vais garder espèce de monopole universel au Québec.
Il y aurait, écoutez bien la stance, elle me surprend, moi, il y aurait 618 000 millénarios millionnaires aux États-Unis.
Ouais.
Ça, c'est des jeunes, là.
Oui, oui, ça c'est CNBC qui rapporte ça, on s'entend là. 618 000 millionnaires, ça veut dire pas qu'ils gagnent 1 million par année, mais qu'ils ont 1 million d'actifs nets. Mettons, si tu mets le parallèle au Québec, ton REER, ton CELI, ta maison, tes placements immobiliers, ta collection de cartes de hockey, moins tes dettes. Évidemment, la collection de cartes de hockey avec la carte recul de Matt Sundin, c'est non matériel, mais quand même, ça c'est ton actif net. Donc les gens qui auraient en bas de 38 ans, qui auraient... cette masse de salaire-là aux États-Unis, pas de salaire, mais d'actifs.
D'actifs, oui.
Bon, on dit qu'ils se concentrent à 60% dans l'État de New York et en Californie, évidemment. Silicon Valley, on comprendra. Puis quand t'as une maison à San Francisco, les chances que tu sois millionnaire une fois que t'as fini de la payer sont très grandes.
Ouais, puis si t'as un condo à Manhattan, ça se peut que tu sois millionnaire, sinon t'en auras pas.
Tu sais, puis 15% des gens, ils sont les millionnaires qui se trouvent à Silicon Valley, il y en a juste 15% qui sont entrepreneurs, mais il y en a beaucoup qui sont riches par leur salaire, par leur actif, tu sais. Après ça, ils changent d'état puis ils sont plus riches. Mais c'est intéressant de voir cette génération-là, en plus, on parle de l'autre phénomène qui s'en vient, et là, je vais te le définir en français, c'est le grand transfert de richesse. C'est-à-dire que ces gens-là qui sont déjà millionnaires vont aussi vivre le transfert aux États-Unis qu'on attend un transfert générationnel de 68 000 milliards de dollars. C'est-à-dire que les boomers seraient la génération la plus riche ou qui a eu le plus de discrétionnaire par rapport à son coût de vie et qui a été capable de générer le plus de valeur. Puis quand j'y pense, c'est un peu logique. Tu sais, prends mon grand-père. Il a eu 13 enfants, 2 fausses couches. C'est sûr qu'avec 3 jobs, une seule personne qui travaille à l'extérieur de la maison, quand il est mort, il n'a pas laissé assez d'argent pour changer la vie de ses enfants. On est-tu d'accord?
Oui.
La génération suivante, elle a connu des salaires à quelques piastres de la semaine jusqu'à des salaires de 70-80 000 par année dans la même génération. Ils ont connu l'invention de la télé jusqu'à l'Internet. Ils ont connu le fait de appeler le voisin en parlant à la téléphoniste à... J'envoie un texto. Donc, cette génération-là a vu tous les booms éducationnels technologiques passer et ça a fait monter le train de vie et ça a généré du discrétionnaire. Aussi la libéralisation des marchés, donc évidemment la libre-échange. Donc, ils se sont beaucoup enrichis. Fait que là, la génération qui va hériter de ça, c'est fou, ça va augmenter les écarts de richesse.
Et ça va augmenter aussi une certaine forme d'inéquité. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, ça n'a pas rapport avec la gauche ou la droite, mais l'héritage, là, d'abord, tu choisis pas tes parents. Il y en a qui vont recevoir 1 million, 10 millions, 30 millions, mais il y en a qui vont recevoir 50 000 de dettes. C'est ça, la réalité.
Oui, mais en fait, les 50 000 de dettes, faut que tu le refuses, Sylvain.
Oui, non, mais tu comprends ce que je veux dire.
Oui, mais ce qui est fou là-dedans, c'est un peu, tu sais, on a déjà notre bagage génétique puis notre contexte socio-économique à la naissance.
Oui.
On a déjà nos malchances. On a déjà plein d'affaires. Et là, l'héritage vient augmenter encore ça. C'est comme si on disait, d'un autre point de vue, il y a des gens qui héritent d'un bagage génétique de leurs parents, puis d'autres non, puis il y en a qui sont plus beaux que d'autres, on est d'accord, puis ont plus de chance. Mais l'argent permet de décupler ces avantages-là. Tandis que tu peux... Demander une limite à être beau. Tu comprends-tu? Tu peux pas gagner plus d'argent et être vraiment plus beau tout le temps, ou être meilleur ou compétent. Mais l'argent, ça se transfère avec un exposant qui a pas de fin. Donc, tu peux transférer 1 million. Après ça, tu peux transférer 1 milliard. La génération d'après, 2 milliards. Puis la génération qui a vécu dans les, tu sais, dans la prohibition puis le commerce croche, au travers de 2 générations, a nettoyé ça puis c'est devenu des milliardaires du Québec très propres.
Donc, est-ce que, ça c'est des gens plus à gauche qui proposent ça, j'en suis conscient, mais est-ce qu'on devrait taxer, imposer les héritages dans le sens où l'État s'arrange pour répartir la richesse de façon plus
efficace? D'un point de vue théorique, la réponse serait de taxer l'actif. D'un point de vue théorique, Sylvain, pour l'équité, là.
Ouais.
Mais là, je vais pas entrer là-dedans, je vais pas te dire que ça s'appelle aussi de la saisie d'actifs. Et ça fait mal aussi, tu sais. Moi, si tu me dis, puis moi, c'est une de mes grandes peurs, Sylvain. Dans 20 ans, mettons, je veux s'arranger pour être correct.
Oui.
Puis le 3/4 du Québec s'arrange pas pour être correct, puis s'achète des gros VUS à 40, 50 000, puis ça roule, puis ça roule, puis ça roule. Puis à la retraite, ils ont besoin d'argent. Puis là, il y a le gouvernement qui arrive en poste qui dit, ben, on va taxer le monde. Ben, dans le fond, je vais m'être trouvé pénalisé pour avoir géré mes affaires. Donc, une des grandes peurs des gens qui ont des actifs éventuellement, c'est de se faire piller les actifs par ceux qui en ont pas. Il y a une portion qui est logique, puis il y a une portion qui est illogique, c'est laquelle? T'sais, donc, c'est une bonne question éthique que tu soulèves.
Mais ça va donner des débats intéressants. Pierre-Yves, merci beaucoup.
Salut, Sylvain.
Salut, 7h34 au FM 93.
La chronique de Pierre-Yves McSween, présentée par Gainsbourg Gingras. Surmontez vos dettes. Contactez gratuitement un syndic autorisé en insolvabilité de Gainsbourg Gingras. Gainsbourg-Gingras.com/dette.